Six semaines après sa disparition en Loire-Atlantique, Manon Rolando est toujours introuvable. Cette agricultrice de 31 ans, mère d'une petite fille, s'est volatilisée à la fin du mois de mars, laissant ses proches sans nouvelles. Rapidement, les enquêteurs ont orienté leurs recherches vers son compagnon, qu'ils soupçonnent d'avoir pris la fuite avec leur petite fille âgée de 15 mois. L'homme a finalement été interpellé à la fin du mois d'avril en Algérie, pays dont il est originaire, alors que Manon Rolando est toujours portée disparue et que l'Algérie n'extrade pas ses ressortissants, se pose désormais la question des suites judiciaires que va connaître cette affaire. Le suspect va-t-il être extradé et poursuivi en France, ou bien la justice algérienne peut-elle être amenée à reprendre le dossier en main? Je suis Pauline Revenat, vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Florine Sylvan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à BFM Radio. Et Maître Boudjelty, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat au barreau de Paris, mais vous êtes aussi président de l'Union des avocats franco-algériens.
C'est cela.
Merci d'être avec nous. Dans un instant, on va revenir justement avec vous sur le lien entre la justice française et la justice en Algérie. Mais tout d'abord, Florine, on va parler du dossier. Et tout démarre avec cette disparition inquiétante.
Oui, cette disparition attire l'attention des enquêteurs parce qu'elle concerne deux personnes. Tout d'abord, Manon Rolando. Cette agricultrice de 31 ans vit à Saint-Étienne-de-Montluc. C'est une commune située près de Nantes en Loire-Atlantique. Elle y a un élevage de vaches. Sauf que depuis le 27 mars dernier, elle ne donne plus signe de vie. Ses proches tentent de la contacter à de multiples reprises, mais rien, pas de réponse. Elle est injoignable, introuvable. Même chose pour sa fille, âgée de 15 mois, Inaya, l'enfant s'est aussi volatilisé. Cette situation est très inhabituelle. Cela amène les proches de Manon Rolando à contacter la gendarmerie pour signaler cette double disparition. À ce moment-là, nous sommes le 3 avril. Les militaires vont se déplacer au domicile de la disparue, mais là encore, aucune trace de l'agricultrice et de sa fille. Selon les procureurs de Nantes, les enquêteurs établissent alors que la trentenaire a sûrement disparu depuis environ 9 jours.
Et en se penchant sur l'entourage de Manon Rolando, il constate qu'une autre personne manque à l'appel.
Oui, son compagnon, le père de la petite fille, est lui aussi introuvable. Et les gendarmes vont assez rapidement se rendre compte que cet homme a quitté la France. Le 2 avril, juste avant que les proches de Manon Rolando donnent l'alerte, il a pris un avion en direction de l'Algérie avec Inaya, sa fille. À partir de là, il devient un suspect sérieux. Il va d'ailleurs contacter quelques personnes par téléphone. Grâce à cela, les gendarmes établissent qu'il est toujours vivant. Une autre information va venir renforcer les soupçons à son encontre. Juste avant de disparaître, Manon Rolando s'était rapprochée de Citadelle. C'est une association qui vient en aide aux victimes de violences conjugales. Les proches de la jeune femme vont aussi expliquer que son couple allait mal, que son compagnon était très jaloux, qu'il l'empêchait de parler à d'autres hommes ou encore qu'il l'a coupé de sa famille. En 2019, il avait d'ailleurs déjà été condamné pour des violences conjugales sur sa compagne de l'époque. Le parquet de Nantes va donc ouvrir une information judiciaire pour enlèvement de mineurs et meurtre par conjoint. En parallèle, une notice rouge Interpol est lancée. Cette notice, c'est un dispositif qui permet de transmettre aux pays qui sont membres d'Interpol un avis lorsqu'une personne est recherchée par la justice.
Alors, Maître Boudjelty, je me tourne vers vous pour revenir justement sur cette notice rouge. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'elle est lancée et en l'occurrence, l'Algérie la reçoit? Comment est-ce qu'elle mène des recherches sur son territoire?
Alors, quand elle la reçoit, en fait, c'est un mandat d'arrêt international qui a été lancé par le parquet de Nantes par via Interpol. Et donc, comme l'Algérie est signataire de cet accord, donc, elle est obligée de la prendre au sérieux. Et en fait, le parquet algérien donc, va s'intéresser à cela. Et comment ils vont le repérer? En fait, parce que l'intéressé va agir. Vous savez qu'il intervient sur les réseaux sociaux.
Il bouge, donc il est géolocalisé.
Et c'est comme ça que la police algérienne va le géolocaliser pour le retrouver dans cette petite ville de l'ouest algérien, El Afroun, dont il est originaire et où habite apparemment sa mère. Voilà comment il est interpellé donc. Alors, la justice algérienne, elle a quoi comme élément? Ben, les éléments qui sont donnés par ses homologues français, avec le parquet de Nantes et le juge d'instruction éventuellement qui est chargé de cette instruction. Et là, il est donc en garde à vue, Et on s'attendait, effectivement, on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer après ?
Florine, pour revenir à la disparition de Manon Rolando, un gros dispositif, à ce moment-là, est déployé en France pour la retrouver.
Oui, rapidement, une centaine d'enquêteurs vont être envoyés sur le terrain pour fouiller, passer au crible la maison et ses environs. Des équipes cynophiles, donc avec des chiens, viennent également en renfort sur les lieux pour tenter de détecter des odeurs. Fin avril, la gendarmerie a tenu un point presse en expliquant qu'elle procède avec un système d'escargot, c'est-à-dire qu'ils partent de la maison pour élargir petit à petit la zone des recherches. Des drones sont aussi utilisés pour avoir une vue d'ensemble sur les zones qui peuvent être difficilement accessibles à pied. Car il faut dire que la configuration des lieux ne facilite pas les investigations. Nous sommes ici dans une zone rurale avec des champs, des forêts, des marécages aussi. À ce moment-là, une cellule de 15 enquêteurs se met en place spécialement pour travailler sur la disparition de Manon Rolando.
Et le 27 avril, les recherches pour retrouver son conjoint finissent par aboutir.
Le suspect est finalement interpellé en Algérie. Sa fille est elle aussi retrouvée. Elle se trouvait avec lui. Le parquet de Nantes n'a pas beaucoup communiqué sur cette arrestation, son contexte et ses suites. On sait par contre que l'homme a été déféré devant un parquet local et qu'il a été placé en détention provisoire en Algérie. Et on le rappelle, cet homme est de nationalité algérienne. Donc rapidement se pose la question de la tournure que vont prendre les investigations désormais.
Alors, Maître Boudjelti, je me tourne à nouveau vers vous. Que va-t-il se passer désormais ? Est-ce qu'une extradition vers la France est possible pour cet individu ?
Alors, tout de suite, non. Il y a certes une convention entre l'Algérie et la France qui est de 2021, mais son article 3 de cette convention exclut expressément toute extradition de nationaux. Mais, si vous voulez, la France en fait autant. Hein. La France n'extrade pas ses ressortissants. Et donc, quand bien même ce monsieur aurait la double nationalité, en Algérie, il est algérien, en France, il est français.
Donc la double nationalité n'aurait rien changé.
N'aurait rien changé. Un ressortissant qui a la double nationalité, quand il est dans un des pays, il est considéré comme ressortissant du pays dans lequel il se trouve.
Alors, est-ce qu'on peut faire les scénarios possibles ensemble imaginables, maintenant qu'il est incarcéré en Algérie, est-ce qu'il peut être jugé là-bas ? Pour une infraction commise sur le territoire français.
Ah oui, c'est le même système de droit. Vous savez, le droit pénal français reconnaît à l'État français, la justice française, de juger des Français qui ont commis des crimes à l'étranger. Souvenez-vous de ces fameux crimes sexuels dans le tourisme sexuel en Thaïlande, etc., où les personnes ont été jugées par la justice française. L'Algérie a le même système. Elle se reconnaît compétente pour juger les Algériens qui ont commis des délits ou des crimes à l'étranger. Dernièrement, il y a un an à peu près, j'avais connaissance d'une affaire, c'est de la famille qui m'avait appelé. Un Algérien, alors lui qui n'a pas la double nationalité, un Algérien avait commis ici un délit donc, de trafic de stupéfiants. Il avait été jugé en France, il avait purgé sa peine, il est rentré en Algérie. Le parquet, c'était le parquet de Bordeaux, avait oublié d'effacer la... Et donc, il arrive en Algérie.
La notice, vous voulez dire ?
Oui.
Ah !
Il est rejugé.
Ah.
Alors qu'en principe, en droit, on
ne
peut pas être jugé deux fois.
Exactement.
Et ça a été très difficile. Il a pu être libéré, je crois, après 2 ans quand même d'emprisonnement en Algérie, parce qu'il a fallu que sa famille aille... au parquet de Bordeaux pour leur demander « faites quelque chose ».
Donc dans notre cas, il est très peu probable que cet homme soit jugé en France et plus vraisemblablement, il sera jugé en Algérie dans les prochains
jours. D'ailleurs, je pense qu'il aurait préféré être jugé en France. Pourquoi ? Parce que la justice pénale est beaucoup plus sévère.
En Algérie.
En Algérie. C'est que là, si par malheur, on avait la confirmation de la mort de Manon, ben lui, il encourt la peine de mort en Algérie.
Contre la réclusion criminelle à perpétuité en France.
Voilà, la peine de mort, même si depuis quelques années, il y a une sorte de moratoire pour l'exécution de ces décisions réellement. Mais pas toujours quand on estime que c'est... Par exemple, que dernièrement, il y a eu des exécutions parce que c'est des viols d'enfants. Et là, même la société algérienne ne comprend pas qu'on ne puisse pas exécuter la peine. Donc là, je pense que au mieux, il aura cette perpétuité, cette réclusion donc, criminelle. Et comme je vous le disais, je crois qu'il aurait préféré être... Seulement, comme bien même il le voudrait, il ne peut pas demander à être jugé par la France.
Mais il est représenté, il a un avocat algérien, donc, désormais, j'imagine.
Certainement, bien sûr. Donc, même s'il n'en a pas un, on lui en convient d'office.
Alors, Florine, il y a deux autres personnes qui ont été mises en examen dans ce dossier.
Oui, et ces deux mises en examen remontent au 22 et 23 avril, des chefs d'associations de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et de modification des lieux d'un crime. Ces deux personnes ont été placées en détention provisoire. Alors, selon les informations de nos confrères de RMC, il s'agit plus précisément de deux proches du conjoint de Manon Rolando, soupçonnés de l'avoir aidé dans sa logistique avant son départ en Algérie.
Merci Florine pour ces explications. Maître Boudjelti, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris, mais vous êtes aussi également le président de l'Union des avocats franco-algériens. Pour revenir un peu sur le cas de ces deux personnes qui sont mises en examen en France, est-ce qu'elles seront vraisemblablement jugées séparément du principal suspect, puisqu'à suivre notre raisonnement, il sera jugé en Algérie, c'est-à-dire dans une procédure distincte, il faut disjoindre, c'est ça?
Oui. Oui, elles seront jugées en France, elles. Si jamais l'instruction établit quand même un lien réel, parce que j'ai eu quelques informations de la part de la famille de la dame, et je ne sais pas, suis pas dans l'affaire.
Il y a une enquête.
Il y a une enquête, mais vous savez que c'est une femme de ménage qui était au service du couple depuis 15 jours seulement, je crois, qui avait répondu à une annonce de travail pour garder une vieille dame et un bébé.
D'accord.
Donc, alors, est-ce qu'elle a été, elle est analphabète? Alors, est-ce qu'elle a été manipulée? Bon, je ne sais pas.
L'enquête le dira.
L'enquête le dira, bien sûr.
Qu'est-ce qu'il en est de la petite Inaya? Est-ce que vous avez des informations? Et par qui elle va être prise en charge?
Pour l'instant, elle est donc auprès de sa grand-mère paternelle.
Algérienne. Donc elle est en Algérie, elle va bien, elle est saine et sauve.
Elle va
déjà bien,
donc c'est sa grand-mère paternelle qui la garde. Alors, cette petite est algérienne. Mm-hmm. Bon, elle est franco-algérienne, mais en Algérie, elle est algérienne. Mm-hmm. Parce que le code de la nationalité algérienne dit que est algérien ou algérienne, c'est celui dont le père ou la mère est algérien.
Donc c'est le cas.
Elle est algérienne de plein droit. Alors, qu'est-ce qui se passe pour elle? Elle va être régie par le droit de la famille algérien. Or, ce fameux code de la famille, parfois on entend parler, et je crois que c'est l'article 64, si mes souvenirs sont bons, attribue la garde de l'enfant en cas de divorce, par exemple, ou de disparition du père, à la mère. C'est toujours du côté maternel. En l'espèce, si donc Manon reste introuvable, théoriquement, sa garde devrait être confiée à la grand-mère maternelle.
La mère de Manon.
La mère de Manon. Alors, il y a un petit hic quand même, parce que cet article dit au début que l'enfant doit être élevé dans la religion de son père.
Ah.
Alors, seulement... Il y a une disposition plus loin qui reprend un peu, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez cette convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, mm-hmm. qu'on appelle la convention de New York, et dont un article 3-1 dit à tous les gouvernements, à toutes les organisations, même civiles, de prendre toujours en premier lieu l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, il y a une disposition qui a été ajoutée et qui dit qu'en tout état de cause, c'est l'intérêt de l'enfant qui sera pris en compte. Mais bien sûr, il faudrait que la grand-mère donc, de cet enfant en fasse la demande. C'est-à-dire que ça va être le juge aux affaires familiales algérien qui statuera. Et après, si, donc, en cas de refus ou de disparition de la grand-mère maternelle, ça reviendra à la grand-mère paternelle.
Alors, j'ai encore deux questions. On rappelle que le corps de Manon Rolando n'a pour l'instant pas été retrouvé. Si cette découverte est faite, et elle est faite en France, est-ce que ça pourrait changer quelque chose dans la suite des investigations? Et est-ce que le suspect resterait poursuivi en Algérie?
Ah oui,
ça ne change rien que le corps soit découvert en France.
Non, ça sera plus grave pour lui.
Ça
aggravera son cas. Mais le jugement, il sera jugé en Algérie. Il n'y a pas de problème. On ne peut pas revenir dessus.
Et dernière question, est-ce que les règles en matière de détention provisoire sont différentes en Algérie qu'en France?
Oui, elles sont plus sévères.
On peut faire des demandes de mise en liberté, les déposer?
Faire des demandes de mise en liberté, bien sûr, le code de procédure pénale est à peu près identique au code de procédure pénale français et algérien. Mais le problème, c'est c'est toujours le cas, même en France. Quelles sont les garanties? Est-ce qu'on a terminé l'enquête? Or, s'il s'agit d'une enquête criminelle, vous savez qu'elles sont très longues.
Et les délais de jugement par rapport à la France?
Identiques, à peu près. Regardez, les procédures criminelles en France, elles sont jugées au bout de plusieurs années.
C'est ça.
Donc, en Algérie, ça va être la même chose.
D'accord.
Ça dépend, en fait, de l'enquête elle-même. À quel moment les juges estimeront qu'elle est terminée.
Et on peut rappeler qu'on peut juger sans que le corps soit retrouvé.
Bien sûr.
Voilà, c'est important de le dire pour nos auditeurs.
Et ça, donc, il y a une entraide judiciaire quand même, hein, entre les deux juridictions.
Qui s'est un peu détendue ces derniers mois, ces dernières semaines.
Alors là aussi, il y a une convention d'entraide judiciaire de 2018 qui fonctionne très bien. Vous savez, en dehors des relations politiques... C'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur français à son retour d'Algérie. Il a dit que la coopération sécuritaire n'a jamais été interrompue. Et la preuve, c'est que l'Algérie a tout de suite interpellé la personne. Là, il a été en garde à vue, mis en examen, placé en détention provisoire, parce qu'on estime que déjà les faits qui sont fournis, ou plutôt les informations qui sont fournies par la justice française sont assez solides. Pour poursuivre. Maintenant, je vous dis, il y a cette convention d'entraide judiciaire, c'est-à-dire que le parquet de Nantes et le parquet algérien et les juges d'instruction travailleront ensemble. Et vous savez qu'à l'ambassade d'Algérie, à Paris, il y a un magistrat de liaison. Et à l'ambassade de France à Alger, il y a un magistrat de liaison.
Absolument.
Donc vous voyez, il y a...
Ça bosse ensemble.
Quand on parle d'entraide judiciaire, ce n'est pas un vain mot.
C'est concret.
C'est vraiment... Et ça dépasse l'aspect politique, puisque c'est entre les instances judiciaires directement entre elles, comme pour les instances policières, sécuritaires, qui, elles, passent outre l'aspect politique, elles continuent de coopérer normalement.
Merci beaucoup, Maître Bougelti, pour votre éclairage et votre participation. Merci, Florine. On va retrouver cet épisode et tous les autres sur bfmtv.com et les plateformes de streaming. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles enquêtes dans Affaires suivantes, le podcast inédit.